Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Tu nous en as sorti une belle, Hugues, cette semaine, la Saab 9-2X. Alors, premièrement, il faut rappeler aux gens que Saab a été un constructeur automobile parce que, bon, c'est disparu depuis un certain temps. Marque que j'ai toujours énormément appréciée, qui proposait des designs originaux, une philosophie intéressante. Mais dans le cas de la 92X, ça
c'est ni l'un ni l'autre.
C'est ça, hein, c'est absolument pas ça. Là. C'était pas une vilaine voiture en soi parce qu'on connaît sa base. Mais qu'est-ce que c'est que cette association-là entre Saab et Subaru?
Eh bien, on retrouve parfois dans l'industrie automobile de drôles de mélanges. Certains sont dus à de bonnes idées, d'autres à du pragmatisme économique, et puis ben certains, c'est juste du désespoir. Lorsque le constructeur suédois a présenté celle que l'on allait rapidement surnommer la Sabaru,
ouais,
eh ben on était clairement dans la dernière catégorie.
Bon, évidemment, faut expliquer quelle était la situation de Saab à cette époque-là, juste avant qu'on lance cette 92X. Moi, ça m'a rappelé, avant qu'on se lance là-dessus, ça m'a rappelé un peu le genre de stratégie que Suzuki avait développé avec Nissan pour lancer une camionnette.
Exactement.
Alors, tu sais, l'Equator de Suzuki, qui était une camionnette Frontier rebadgée, pourquoi? Tu sais, c'était trop peu, trop tard. Ça, c'est un peu la même chose.
Exactement. Ben alors, la situation de Saab à la fin des années 80 est relativement paradoxale. Si les ventes se portent bien, la marque commence à douter de son avenir à cause de son statut de petit constructeur dans un paysage automobile qui se consolide à grands pas. Fâché de ne pas avoir pu mettre la main sur Jaguar, qui ira à Ford pour 2,6 milliards de dollars en 1989, General Motors se rabat sur Saab et en acquiert 50% pour 600 millions de dollars. Les 50% restants seront achetés en 2000 pour la somme de 125 millions, ce qui en dit déjà long sur la dégringolade de la marque durant les années 90.
C'est rien, là, 125 millions pour 50%. 125 millions de dollars, pense-y, là.
Non, non, puis on passe de 600 à 125. Déjà, ça augure pas bien. Le constructeur n'arrivera à faire des petits profits qu'en 1994, 95 et 2001. L'intégration du fabricant dans l'empire GM sera houleuse, la corporation ne sachant pas trop quoi faire de Saab et les Suédois de leur côté ne voulant rien lâcher de ce qui fait leur spécificité.
Bon, le contexte dans lequel s'est passé le développement de la 92X est assez particulier.
Ben oui, parce qu'en fait, le lancement au millésime 2003 de la deuxième génération de 9.3 n'a pas eu l'effet escompté et GM recommence clairement à se demander quoi faire avec Saab. Bob Lutz, le vice-président responsable du développement produit, observe ce qui se passe en Europe. Les constructeurs de luxe descendent deux segments. Audi a introduit sa deuxième génération d'A3.
Ouais.
Mercedes renouvelle ses classes A. Et BMW s'apprête à dévoiler la série 1. Voilà un marché où Saab pourrait aller chercher de la croissance. Mais pas question de partir d'une feuille blanche. C'est là que Bob Lutz se dit que Subaru, dont GM possède alors 20%, pourrait fournir une base idéale avec son Impreza. Et puis, Saab a déjà eu un clone dans sa gamme dans les années 80 avec la Saab Lancia 600, dérivée de la Lancia Delta de première génération,
ouais,
qui a été produite en Italie de 1980 à 1982. Et c'est ainsi que la Saab 9-2 arrive au Canada et aux États-Unis pour le millésime 2005, uniquement avec une carrosserie 5 portes.
Bon, évidemment, c'est un peu curieux d'imaginer qu'on pensait rivaliser avec des Audi, des BMW, des Mercedes avec cette voiture-là. Aussi drôle que de penser qu'on voulait rivaliser avec une série 3, avec une Cadillac Cimarron dans les années 80.
On n'est pas loin,
en fait. Mais c'était quand même pas une vilaine voiture parce qu'on partait d'une bonne base, là.
Mais tout à fait. La 9-2 a beau arborer une calandre typiquement Saab, elle ne trompe personne quant à ses origines.
Ben non.
Elle est d'ailleurs produite sur les mêmes chaînes d'assemblage que l'Impreza dans l'usine de Yajima au Japon. La partie arrière est revue, nouveau feu, déplacement de la plaque d'immatriculation du pare-choc vers le hayon, aileron intégré au hayon et c'est à peu près tout. À l'intérieur, la console centrale est modifiée avec un fini métallique. Les ingénieurs ont tenté bien que mal de distinguer la Saab de la Subaru en améliorant l'insonorisation, avec des supports moteurs revus, matériaux insonorisants supplémentaires et des tapis plus épais, et en installant un boîtier de direction plus direct qui provient de la STI, et aussi en révisant les suspensions, ressorts plus fermes, amortisseurs plus souples, coussinets plus rigides. Au lancement, deux versions sont proposées. La 9.2X Linear vient avec un 4 cylindres boxer de 2,5 litres de 165 chevaux. Il y a un équipement relativement décent, roue de 16 pouces, climatisation, régulateur de vitesse, condamnation centrale, rétroviseur électrique, sellerie de ton. Et la finition aéro bénéficie quant à elle du 2,5 litres turbo provenant de la WRX, 227 chevaux, et ajoute à sa liste d'équipements la prestère sur le capot, un embout d'échappement chromé, les anti-brouillards, les roues 17 pouces, le système audio assis haut-parleur, le volant gainé cuir et les sièges Porsche chauffants. Toutes deux viennent avec une boîte manuelle à 5 rapports, tandis qu'une boîte automatique à 4 rapports est disponible.
Ce qui est assez particulier, c'est que c'est uniquement une version familiale qui est offerte aussi.
Absolument.
Alors, pas de version berline, alors que ce qu'on aurait voulu rivaliser, c'est des berlines de la compétition. On a choisi d'aller chercher une version familiale, ce qui était une décision assez particulière pour viser un marché américain.
Assez conservateur.
Et tu parlais des modifications qu'on a faites à l'intérieur qui sont très, très, très mineures. On s'est même pas cassé la tête à déplacer le barillet de clé sur la console centrale, comme on l'a fait avec d'autres véhicules.
Exactement.
Bon,
mais
on pourrait revenir plus tard.
Il n'y avait pas du tout d'argent. Je pense qu'ils avaient une enveloppe absolument ridicule. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient.
Oh, ouais. Bon, la 9.2X, elle est arrivée sur le marché. Et moi, je me souviens d'avoir vu débarquer cette voiture-là et de me dire, mais pourquoi? Et pas de publicité, pas de son, pas d'image. On n'a mis aucun effort pour la promouvoir, cette voiture-là.
Bah parce qu'on ne poussait pas Saab plus que ça.
Pour GM, Saab, c'était vraiment un boulet à la cheville. Là. On était pris avec ça.
La voiture est la preuve même qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, comment le vendre, comment cibler, quel était le public. Et pourtant, la voiture est relativement bien accueillie à son lancement. La 9.2X, elle est appréciée pour sa transmission intégrale permanente, sa tenue de route, son insonorisation et le moteur vivant. 227 chevaux dans l'aéro, c'est pas mal du tout. Les plastiques de l'Impreza ne font pas très pire premium et la suspension reste ferme. Mais le plus gros problème, c'est que la voiture ne trompe personne et que le déficit d'image est complètement béant. Pourtant, les prix sont relativement compétitifs. On parle de 29 000 pour la linéaire et 37 700 pour l'aéro. Une Volvo T5 de l'époque est 38 600 et une WRX 5 portes de chez Subaru est 35 500. Donc, les prix sont plutôt pas mal. Pour 2006, les puissances sont revues à la hausse. 175 chevaux sur la linéaire et 230 sur l'aéro. Et les ensembles d'options sont légèrement modifiés. L'accueil froid de la clientèle n'a pas vraiment encouragé Saab à développer le modèle, d'autant que GM est parti en octobre 2005 de ses 20% dans Subaru. Ça n'aide pas. La 9.2X ne connaîtra pas un millésime 2007 et au final, Saab aura écoulé uniquement 10 322 exemplaires et les ventes au Canada seront complètement anecdotiques avec 1038 exemplaires.
Imagine-toi, Gabriel, tu avais mis cette voiture-là à l'essai, j'imagine.
Mais j'avais conduit ça quand c'est sorti sur le marché. Ce qui était le fun, c'était, bon, évidemment, les suspensions étaient plus fermes que celles de la Subaru. Tu avais une voiture qui avait une bonne tenue de route quand même, mais tu n'avais rien de ce qui faisait le charme d'une Saab.
C'est ça.
T'sais, tu parlais du barillet, de la clé là, sur la
console
centrale à côté du levier de vitesse. T'sais, chez Saab, ça, c'était une obsession des ingénieurs pour la sécurité. Pourquoi? Parce que tout le monde avait sa clé attachée avec son autre trousseau de clés, toutes les autres clés, et ça, c'était en colonne de direction. En cas d'accident, ton genou entre en contact avec un amas de métal pour te déflamboxer complètement tes ligaments et tout. Alors, eux autres se sont dit, on va la mettre ici, la clé, comme ça.
Pas de risque.
Ouais. Ici, pour tes genoux, c'était un truc qui était vraiment rembourré. Là. Tu sais, c'était un facteur de sécurité. L'autre truc qui était cool, c'était le black panel. Le black panel, c'est que tu t'activais ça la nuit au moyen d'une touche sur le tableau de bord. Et ce que ça faisait, c'est que ça éteignait tout ce qui était lumineux dans l'habitacle, sauf l'indicateur de vitesse.
Ouais.
Donc, l'idée pour ça, c'était de réduire...
Et la jauge à essence, si jamais tu étais sur le point, t'en manquais.
Et voilà, exactement. Ouais. Donc, ça faisait en sorte que tes yeux pouvaient s'adapter à la luminosité dehors. Tu n'étais pas aveuglé par littéralement tout l'éclairage que tu as dans une auto. Puis d'ailleurs, avec les voitures modernes, avec tous les écrans, là, puis les Mercedes-Benz avec les effets de lumière, Saab, c'était complètement l'autre idée.
Ouais.
C'était vraiment un truc de sécurité. Puis évidemment, la Saab 9.2, il n'y avait ni,
non,
ni
y avait
la
rien.
Clé, n'avait pas le black panel non plus, je pense.
Mais moi, j'avais fait un comparo avec la V50.
Oui.
Et franchement, elle n'avait pas été ridicule du tout. Là.
Ah, c'est sûr.
Ça allait plutôt
le problème,
ce
n'était pas le produit, c'est la façon de le vendre, de le distribuer et le désintérêt total de GM à vendre ce produit-là.
C'est sûr, parce que les gens allaient chez un concessionnaire, puis les Saab, les gens de Buick se mêlaient là-dedans. Ils disaient, il faut mettre du chrome sur les autos parce que ça fait pas assez luxueux. Là, ils se sont mis avec les 9.3, les 9.5, ouais, à rajouter du chrome partout, essayer de les transformer, les américaniser en quelque sorte. Puis là, tu tues complètement le caractère d'avant.
Ouais, je pense de toute façon que toute la stratégie de ce qu'on appelait à l'époque SSI, ce qui était Saturn, Saab, Isuzu, c'était un gros flop monumental. Ça a été dans la colonne des pertes à peu près tout le long que GM a possédé ça. Là.
Définitivement.
Mais je pense que pour General Motors, Saab, c'était un prix de consolation. Ils voulaient Jaguar, ils ne l'ont pas eu.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et ça a été ça, puis là, finalement, ils se sont dit, bon, finalement...
Mais j'ai aimé ce que tu mentionnais tantôt, parce que dans la catégorie des autres mauvaises décisions qu'on a prises chez GM, se débarrasser de 20 % de Subaru, ce n'était pas la meilleure idée. Aujourd'hui, on doit s'en mordre les doigts, là. Absolument. Là. Écoute, chez Saab, c'était pas le seul produit qui était ce que je qualifierais d'un bâtard. On avait d'autres produits dans la famille Saab qui n'étaient pas d'authentiques véhicules suédois. Là.
Non, bah il y avait le 97X qui était dérivé de l'Oldsmobile Bravada, qui était un VUS, qui lui avait la clé sur la console centrale.
Ouais. Là, on était
dans un vrai véhicule Saab.
Ouais.
Et puis il y avait eu le 94X.
Pour rivaliser avec un Mercedes ML et un BMW X5. Ben, c'était littéralement ça.
On en rit encore.
Ouais.
Et non, en fait, il y avait une bastardisation de la gamme. Et en fait, ce que Bob Lutz avait tenté, ça ne marchait pas parce que c'était trop peu, trop tard. Et puis, à la fin, la crise financière de 2008 et la faillite de GM en 2009 ont fini de sceller le destin de Saab. Mais bon, là, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à raconter.
Ben oui, parce que évidemment, Saab s'est étiré quelques années de plus suite à la faillite de GM. Et il y a eu le 9-4X qu'on n'a pas eu ici, mais qui s'est vendu à quelques centaines d'exemplaires aux États-Unis. Et la berline BLS qui a été vendue en Europe, c'était une Cadillac.
Là. Alors oui, alors là, c'est un autre croisement assez bâtard, mais dans l'autre sens. GM voulait faire percer la marque Cadillac en Europe et elle s'est servie de la Saab 9.3 comme voiture donneuse pour créer la Cadillac BLS. Esthétiquement, la BLS reprend les arêtes tranchantes du style Cadillac de l'époque et l'intérieur est légèrement modifié. Pour le reste, toute la partie technique de la 9.3 est reprise, y compris les motorisations diesel non disponible en Amérique du Nord, donc il y a eu des Cadillac diesel.
Mais la voiture avait un look quand même intéressant, très inspiré de celui de la CTS là, qu'on avait lancé à l'époque. Là. Ouais.
La BLS est présentée en 2006 et une version familiale est présentée en 2007, une première pour Cadillac avant la CTS Sportwagon de 2010. Et chose assez rigolote, elle se vendra encore moins bien que la 92X avec moins de 7500 exemplaires avant de disparaître du millésime 2009. Alors quant au nom, il est en accord avec la nomenclature Cadillac de l'époque, CTS, DTS, STS, mais certaines mauvaises langues prétendent que cela voulait dire Bob Lutz Special.
Merci, Hugues.